allons passer à la deuxième partie de notre conférence avec les questions et réponses. Vous connaissez les règles, je vous demanderai de bien vouloir fermer vos téléphones ou les mettre sur silencieux. Et toutes les personnes qui vont prendre la parole, veuillez aussi vous présenter ainsi que l'organe de presse que vous représentez. Nous allons commencer à prendre des questions d'abord à Kinshasa avant d'aller à Goma. Nous commençons sur la droite. On peut peut-être changer de micro, s'il vous plaît.
Merci, c'est Jean-Pierre Caïmé pour FGR. La question s'adresse aux paroles militaires. Je demandais si la MONUSCO est au courant d'une nouvelle milice qui s'est vue dans la ville de Béni. Et d'après une source, les éléments du Kamer ont attaqué la ville de la ville la semaine dernière.
Merci. Mon commandant.
Je ne suis pas au courant d'une nouvelle milice dans la région de Béni. Je suis seulement au courant des attaques et des menaces dont nous ont fait part le groupe Mai Mai Hilaire. Effectivement, vous avez raison, le maire a été menacé ce matin, non pas hier, ce matin il y a eu une attaque à 5h du matin contre les positions FRDC. Les Mai Mai Hilaire auraient visé cette position des FRDC pour libérer certains de leurs rebelles capturés et prisonniers dans cette position des FRDC. Donc nous regrettons amèrement la violence inutile déplorée face à ces incidents et conjointement avec les FRDC, nous sommes en train de mener des actions pour que le calme revienne dans cette zone géographique et dans la ville de Béni.
Merci. Deuxième question.
Merci. Moi, c'est Flavien Msens pour le compte des Planètes Télévisions. Monsieur le porte-parole de la MONUSCO, est-ce que vous pouvez nous donner les centres de l'objectif de visite du secrétaire général de l'ONU accompagné des présidents de la Banque mondiale ici à Kinshasa? Deuxième préoccupation sur le plan humanitaire. Aujourd'hui, le 15 mai, le monde entier célèbre la journée internationale de la famille. L'ultimatum des autorités angolaises inspire aujourd'hui, suite aux expulsions des ressortissants étrangers en séjour irrégulier sur le territoire angolais. Quelle est la réaction de l'ACR ou bien situation humanitaire par rapport à cette expulsion au cas où les débordements arrivent? Merci.
Pour la première question, je pense que la visite en République démocratique du Congo, une visite commune, le secrétaire général des Nations Unies et le président de la Banque mondiale, on ne peut pas demander une plus grande expression de l'intérêt que la communauté internationale porte à ce pays-là. Maintenant, le secrétaire général, comme vous le savez, de temps en temps fait une tournée des pays membres des Nations Unies. Très certainement, il faut aussi voir la visite du secrétaire général ici sous l'angle du renforcement du mandat de la MONUSCO avec la résolution 2098 et la mise en place de la brigade internationale. Maintenant, la brigade d'intervention. Maintenant, les deux personnalités seront ici. Je suis sûr qu'elles vont avoir des annonces très importante à faire en ce qui concerne la RDC. Je ne pense pas qu'il me revient de parler de cela. Attendons encore quelques jours. Quand ces personnalités seront là, très certainement que vous aurez plus en détail les informations qu'elles vont mettre à votre disposition. La deuxième question, humanitaire.
Effectivement, l'ultimatum lancé expire aujourd'hui. Le gouvernement angolais a demandé à toutes les personnes en situation de résidence illégale de quitter son sol au plus tard le 15, donc aujourd'hui. Sinon, il sera procédé à des opérations d'expulsion forcé, si je peux m'exprimer ainsi. Cette décision est consécutive à une réunion qui s'est tenue les 12 et 13 avril entre la République démocratique du Congo et l'Angola à travers les provinces de Kasaï occidental et de Lunda Nord, où les deux parties s'étaient mises d'accord sur la question. Et au cours de cette réunion, il avait été convenu que le gouvernement angolais pouvait de nouveau, après le retour de toutes ces personnes en situation irrégulière, poser des conditions pour permettre aux gens de revenir, mais cette fois-ci en se conformant à la loi. Depuis cette annonce, depuis la fin d'avril, il y a plus de 35 000 personnes qui sont retournées par elles-mêmes et les gens continuent à rentrer pratiquement tous les jours par plusieurs points d'entrée. Alors, votre question, c'est par rapport à la réaction des humanitaires face à cette situation. La situation préoccupe. Nous avons déjà plus de 35 000 personnes qui sont à Kamako, dans le Kasaï occidental, et qui sont dans une situation difficile. Il y a un groupe de travail qui s'est réuni depuis un certain temps, depuis la semaine dernière, ici à Kinshasa, pour prendre toutes les dispositions et faire face à un éventuel afflux massif de ces personnes. Et on sait aussi qu'une fois l'ultimatum expiré, il y aura un afflux massif et on craint justement que cela ne se passe dans les mêmes conditions que ce qu'on a vécu les années précédentes. Et ce matin, il y a une mission interagence qui devait quitter Kananga. Je ne sais pas si la mission est déjà en route, mais en tout cas, elle devait quitter Kananga ce matin pour se rendre à Kamako et faire une évaluation de la situation. Au retour de la mission, au regard des informations que cette mission aura fournies, on pourrait décider des réponses éventuelles à donner à cette question.
Merci beaucoup. Nous allons aller maintenant à Goma. Bonjour Goma, pour prendre la première question.
Oui. Vas-y, approche le micro.
Voilà, je suis Denise Loukesso de la Radio Capi. Ma question est adressée au porte-parole militaire. Vous avez annoncé l'arrivée des troupes tanzaniennes qui ont commencé à fouler les sols du Nord Kivu depuis vendredi. Est-ce que les habitants du Nord Kivu peuvent avoir une solution aujourd'hui aux problèmes sécuritaires avec l'arrivée de ces troupes? Est-ce que nous pouvons dire que cette fois-ci est la bonne?
Écoutez, il y a un nouveau mandat qui vient d'être mis en place. Conformément à ce nouveau mandat, nous mettons en troupe la brigade d'intervention. Nous allons ensuite remettre en œuvre un nouveau concept d'opération, conformément aux directives qui nous arriveront de New York, avec nos nouvelles règles d'engagement. Depuis le début, nous faisons tout pour assurer la protection des habitants de Goma. Nous avons de nombreux exercices et d'opérations qui sont menées conjointement avec les FARDC. Et depuis, effectivement, les incidents de novembre 2012, il n'y a pas de menace majeure qui pèse sur Goma. Et nos positions à Munigi pour soutenir les FARDC sont bien là pour témoigner de notre volonté d'assurer la protection des habitants de la région.
Vous avez posé la question de savoir si cette fois c'est la bonne. Oui, cette fois ce serait la bonne si cette fois chacun joue sa partition. Nous avons d'abord l'accord cadre signé par 11 pays, dont la République démocratique du Congo, qui énonce très clairement, la responsabilité de chacun. Donc, si chacun respecte ses engagements, il y a aussi les responsabilités de la République démocratique du Congo qui sont énoncées. Il y a les Nations Unies, la résolution 2098, mais les demandes à nommer un envoyé spécial pour la région, elle va jouer sa partition. Le représentant spécial du secrétaire général ici va mettre à disposition de toutes les parties ses bons offices comme c'est demandé dans la 2098, oui, si chacun joue sa partition, je pense qu'on aura une belle musique qui sera la fin de tout ce que nous vivons jusqu'à aujourd'hui. Mais n'attendez pas seulement que parce qu'il y a des troupes militaires sur le terrain, ce sera la fin des problèmes à l'est de la République démocratique du Congo. Ce ne sera pas seulement une solution militaire, mais il faudra aussi une solution politique, il faudra aussi une coopération entre tous les pays de la région, comme c'est demandé dans le cadre de l'accord cadre. Nous prenons une deuxième question.
Mais qu'est-ce qu'elle vient faire à l'ordre?
Qu'est-ce qu'ils sont venus faire maintenant?
Merci beaucoup. Je suis Alain Tchouma, journaliste à Radio Kivu 1. J'aimerais peut-être savoir la stratégie utilisée par les Nations Unies actuellement avec le déploiement de la brigade, parce qu'on sent qu'il y a une certaine lenteur dans le déploiement. Pas plus tard qu'avant-hier, c'était 45 militaires. Est-ce qu'on a des enjeux qui manquent aux Nations Unies pour qu'à deux rotations, tous les militaires tanzaniens soient ici? Et en plus, avec l'actualité que nous avons aujourd'hui dans la partie de la ville de Beni, où les militaires commencent déjà, les rebelles commencent déjà à prendre des positions, à encercler les villes. Les M23 aussi en train de prendre aussi des relèves avec cette politique d'encerclement. Vous ne pensez pas peut-être qu'à un certain moment, vous allez manquer ou mettre les militaires de la brigade d'intervention et rendre la ville de Goma une ville militarisée par les Nations Unies encore une fois de plus? Merci.
Bon, commandant.
Écoutez, j'ai pas entendu jusqu'à présent d'encerclement de la ville de Goma ou de M23 qui serait en train de se promener dans le Nord Kivu. Je comprends bien que les groupes armés sont de plus en plus sous tension et cela est dû en partie à ce nouveau mandat que nous mettons en œuvre actuellement. Je répète que la force de la brigade d'intervention est de 3000 hommes, 3000 hommes qui vont arriver avec leur matériel, et je pense pas que l'on puisse bouger 3000 hommes avec leur matériel du jour au lendemain comme ça. Donc la progression est constante, les hommes arrivent tous les jours sur Goma, prennent leur position, il faut qu'on les installe dans des endroits où ils peuvent vivre, ce que nous sommes en train de construire actuellement, et ensuite nous mettrons en œuvre cette brigade d'intervention conformément au mandat 2098.
Nous prenons une troisième question à Goma avant de revenir à Kinshasa.
Merci beaucoup, c'est Inga Paterne de AP. Ma question s'adresse à Vincent, le porte-parole militaire. Aujourd'hui, vous pointez le M23 de doigt, qu'il est en train de recruter les jeunes par force dans Rutshuru. Et pourtant, nous savons que la MONUSCO est ici pour sécuriser la population et leur bien. Quelle est la réaction face à ce recrutement forcé de M23 à cette paisible population de Rutshuru? Merci.
Nous assurons continuellement et journalièrement des patrouilles pour essayer de montrer la présence de la MONUSCO. Nous avons des patrouilles au sol tous les jours dans la vallée du Rutshuru, sur tous les axes à partir de tous nos points forts. Nous avons également des missions aériennes qui ont lieu à partir d'hélicoptères de transport ou d'hélicoptères armés tous les jours au-dessus de cette vallée du Rutshuru. Mais bien évidemment, la seule chose que nous menons actuellement, c'est recenser ces cas, c'est mettre en œuvre la politique de désarmement, DDR, DDRRR, et nous essayons au maximum de montrer et de faire revenir vers nos COB, nos TOB, ces personnels qui ont été recrutés par force, et ensuite les évacuons sur Goma sous la protection de la MONUSCO pour qu'ils rejoignent les centres de démobilisation.
Merci, nous revenons à Kinshasa, nous commençons sur la gauche. Là? Allez, oui. Briand.
Oui, Pierre Briand, Agence France Presse. Est-ce que vous avez un calendrier pour la mise en place de cette brigade? Les drones, quand vont-ils arriver? Et avez-vous une date pour son opérationnalité?
Au commandant.
Oui, au niveau de l'arrivée de la brigade d'intervention, bien entendu, nous avons une planification militaire assez stricte. Quant aux drones, pour l'instant, l'appel d'offres a été lancé. Nous avons étudié les propositions de toutes les compagnies qui ont effectué la reconnaissance sur le terrain. Nous sélectionnons en ce moment celle qui répondra au mieux aux attentes des militaires, mais nous n'avons pas de date d'arrivée des drones.
Deuxième question, ACP.
Thierry Maï de l'Agence congolaise de presse. L'attaque de Beni me fait beaucoup réfléchir quant à la problématique des groupes armés. Ça signifie que, en dépit du fait que la MONUSCO a la cartographie des implantations de tous les groupes armés, ils peuvent frapper à tout moment. Et en dépit du soutien de la MONUSCO vis-à-vis des FARDC, ces gens peuvent frapper dans n'importe quel coin du Nord Kivu. Est-ce qu'avec le soutien que vous apportez au FARDC et que vous avez, je suppose, un service de renseignement au niveau de la force de la MONUSCO, vous n'êtes pas en mesure de détecter, de comprendre comment ces gens attaquent souvent des villes au Nord Kivu?
Permettez que je m'étonne un peu sur cet acharnement sur la MONUSCO, comme si la MONUSCO faisait partie des problèmes. Je vous le répète, la MONUSCO ne fait pas partie des problèmes. La MONUSCO fait plutôt partie des solutions. Ces problèmes, ce n'est pas la MONUSCO qui les crée. La MONUSCO, au contraire, essaye d'amener sa contribution pour résoudre ces problèmes. Maintenant, plusieurs d'entre vous ont été à plusieurs reprises amenés à l'est de la République démocratique du Congo. Vous connaissez le terrain, vous savez comment est l'est de la République démocratique du Congo. Ce n'est pas facile de se mouvoir là-bas. Vous n'allez pas demander à 3000 hommes qui vont arriver de la brigade d'intervention d'être derrière chaque case, derrière chaque Congolais, derrière chaque arbre, derrière je ne sais pas quoi, pour amener une sécurité totale. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Ne vous attendez pas à une solution miracle. Je viens de le dire. Tout le monde doit jouer sa partition. Je prends l'exemple de Kinshasa. Je pense qu'il y a environ 30 000 policiers dans la ville de Kinshasa, où il y a l'électricité, où il y a l'eau, les routes sont bonnes, le téléphone fonctionne. Et pourtant, chaque matin, on nous dit que les Kulunga ont tué. Alors, vous comprenez que ce n'est pas, le problème de sécurité n'est pas une chose facile. Ce n'est pas une chose facile. 30 000 dans la ville de Kinshasa, et nous avons toujours ce phénomène d'insécurité. C'est tout le monde qui doit jouer sa partition là. Alors, ce n'est pas la peine de vous acharner sur la MONUSCO, comme si c'est la MONUSCO qui a amené ces problèmes, comme si la MONUSCO était incapable d'apporter une solution. Ce n'est pas la MONUSCO seule qui va résoudre ce problème. Et la MONUSCO n'a pas mandat de résoudre ce problème. La MONUSCO a mandat de soutenir l'effort national. Je le répète, la MONUSCO a mandat de soutenir l'effort national. Nous prenons une dame, s'il vous plaît.
C'est Mamie Tambo de la chaîne de télévision Antenne A. Ma question, c'est par rapport au décès du casque bleu pakistanais. Est-ce que la MONUSCO a-t-elle déjà identifié les assaillants? Si oui, c'est qui? Parce qu'au niveau du gouvernement, son porte-parole a déclaré lundi que les hommes en uniforme qui auraient tué ces casques bleus pakistanais ont été identifiés.
Mon colonel, vous avez une réponse?
Écoutez, on est sur plusieurs pistes en ce moment. On ne baisse pas les bras. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on a des opérations conjointes avec des postes pour boucler le périmètre. Effectivement, depuis le début de ces opérations, nous avons appréhendé deux personnels qui ont été remis à la justice. Donc nous ne les interrogeons pas. Et au niveau du processus d'enquête, nous attendons toujours le compte-rendu.
Une autre question. Je crois qu'il y a une dame là derrière. Donnons le micro plutôt aux dames, puisque c'est pas souvent qu'on les a.
Oui, Patricia Panzo pour B1 Télévision. Je voulais juste avoir une confirmation. Est-ce que la MONUSCO peut confirmer l'information selon laquelle un groupe de soldats rwandais serait entré en RDC en renfort au M23?
En commandant.
Vous tenez de l'information de la société civile du Rutshuru?
De quelle société civile? Qui, quelle société vous a donné l'info? D'où?
La société civile de Goma.
De Goma, oui. Bah, c'est comme les 4000 qui étaient présents il y a un mois, c'est ça? Non, donc j'ai aucune information crédible, concrète à vous apporter sur ce sujet et nos sources d'information de la MONUSCO ne nous ont pas fait remonter ce type de renseignements.
Merci. Nous repartons encore sur Goma. Goma, on peut prendre deux questions chez vous.
Oui. Oui, moi c'est John Kanyonyo, je suis correspondant de la Deutsche Welle. Je rentre à Beni. Beni a été attaqué ce matin. Quel a été l'apport des casques bleus de la MONUSCO dans l'opération ce matin? Et la MONUSCO a aussi pour mandat la protection des civils. Et pourtant, les civils sont en train d'être enlevés en territoire de Beni à la présence de la MONUSCO. Peut-on dire que la MONUSCO a failli à sa mission? Merci.
S'il vous plaît, je reviens sur la deuxième partie de votre question. Là, que les civils sont enlevés en présence de la MONUSCO. Pouvez-vous clarifier ça pour nous, s'il vous plaît? C'est une accusation très grave. Quand vous dites en présence, c'est comme si nous sommes présents.
Je dis la MONUSCO est à Beni. Donc la MONUSCO n'est pas à Beni, s'il vous plaît?
Mon commandant.
Oui. Franchement, j'ai pas du tout envie de répondre à ce type de questions. La seule chose qu'on fait, c'est qu'on mène 1318 patrouilles par jour. 1300 par jour. On n'est pas les bras inactifs et j'ai jamais entendu d'enlèvement en présence de soldats de la MONUSCO. C'est ce que vous insinuez, c'est bien ça. Donc faites bien attention aux questions que vous posez. Écoutez bien les comptes rendus que nous vous donnons. On mène en réaction, parce qu'on ne peut pas prévoir ce type d'incident, on mène en réaction et immédiatement que l'on a le renseignement, on mène des patrouilles sur les lieux, on fait du bouclage avec les FRDC et l'on mène des opérations pour essayer de contrecarrer ces incidents sécuritaires. Mais comme l'a dit tout à l'heure le porte-parole de la mission, on ne peut pas être derrière chaque case et derrière chaque arbre. On est bien en réaction immédiate à ce type d'incident quand ils arrivent. Et en plus, nous menons donc quotidiennement des patrouilles.
Une autre question de Gomas.
Je suis Faisal Clémence de Hope Channel Télévision. Vous avez dit que la MONUSCO a pour mandat de soutenir l'effort. Mais qu'est-ce que fait exactement la MONUSCO? À Routchour, on enlève les gens du jour au jour. On tue sur des gens et puis la MONUSCO même, les conteneurs, c'était en pleine journée où on a les éléments de M23 étaient obligés d'intercepter les conteneurs pour détruire des cadenas et puis voir qu'est-ce qu'il y a là-dedans. Au même moment, on continue d'enlever des gens et de tuer. C'était en pleine journée au niveau de Routchour au centre. La MONUSCO fait quoi? Et puis, quand la brigade d'intervention va venir pour attaquer, ça sera pour anéantir les groupes rebelles ou bien ça sera pour faire quoi? Ou ça sera comme la MONUSCO? Non, on doit attendre l'ordre venant de quelque part pour réaliser la mission sur le terrain.
Vous travaillez pour quel média, s'il vous plaît? Vous travaillez pour quel média, s'il vous plaît?
Hope Channel Télévision.
Hope Channel, c'est une média confessionnelle?
Non. C'est pas ton problème.
Allô? Est-ce que vous m'écoutez? Allez-y.
Je répète encore une fois, ça va faire trois fois qu'on le répète, on est en soutien de la reconstruction d'un état de droit dans cette partie du Congo. On est en soutien, la mission civile, la mission militaire. On n'est pas là pour faire le travail à la place des autres. Comprenez-le bien. Au niveau des conteneurs, quand vous vous faites arrêter par des hommes en armes, que vous êtes casque bleu, que vous n'avez pas le mandat d'utiliser votre arme, vous ne le faites pas. Quel est le plus important, la vie d'un casque bleu ou ce qu'il y a dans un conteneur? Et on n'est pas là pour créer des incidents, on est là pour les résoudre. Au niveau des enlèvements, encore une fois, je le répète, on ne peut pas être derrière chaque case, derrière chaque personne, derrière chaque arbre. Mais dès qu'il y a des incidents qui arrivent aux oreilles de nos personnels que ce soit dans le Rutshuru ou n'importe où dans le Congo, on réagit en envoyant sur place et immédiatement des patrouilles.
Nous revenons à Kinshasa sur la droite. Amenez le micro à RTNC, s'il vous plaît.
Merci, c'est Venant vous dit ça pour le compte de la Radio-Télévision nationale congolaise. Ma question s'adresse au porte-parole militaire. Depuis qu'on a annoncé la mise en place ou l'arrivée de la brigade d'intervention spéciale, il ne se passe pas un seul jour sans que les forces négatives se rallient soit au FRDC, soit se rendre auprès de la force de la mission onusienne. Et d'autres personnes pensent que c'est une infiltration des forces armées congolaises. Et d'autres, par contre, croient que c'est une bonne volonté, peut-être une façon d'échapper au fait qui va s'ouvrir bientôt sur eux. Vous, personnellement, qu'est-ce que vous en pensez par rapport à ces ralliements de forces négatives? Une bonne nouvelle ou peut-être il faut regarder ça plusieurs fois pour en tirer les conséquences? Merci.
Déjà, en parlant de forces négatives et de ralliement au FRDC ou aux troupes onusiennes, je ne suis pas extrêmement satisfait de l'utilisation du terme. Disons que ces troupes arrivent dans nos unités et elles suivent un processus de démobilisation. On les fait suivre un processus de démobilisation quand elles arrivent à la MONUSCO. Au niveau du traitement par la FRDC, il y a des discussions en cours pour soit les faire rentrer dans le processus de démobilisation, soit les faire rentrer dans un processus d'intégration. Sachant qu'une nouvelle politique d'intégration a été sortie par les FRDC il y a 15 jours maintenant. Pour moi, c'est une bonne nouvelle. Ça montre que l'outil qui est mis en place par le mandat 2098, et l'outil c'est la force d'intervention, cette nouvelle brigade, porte ses fruits. Cet outil, on le crée pour pouvoir l'utiliser, mais s'il peut forcer les groupes armés à arrêter de commettre des incidents et à se rendre au FRDC ou aux troupes de la MONUSCO sans effusion de sang, c'est bien une très bonne nouvelle pour ma part.
Monsieur Marley.
Roger Marley, Lukunga, pour les journaux Le Paris et la télévision CMCTV. Lorsque Madame Olara Otunu était en visite dans notre pays en 2002, Madame Olara Otunu, c'est la Nigériane sous-secrétaire générale des Nations Unies, de Kofi Annan chargée des enfants en zone de conflit. Lorsqu'elle était en séjour dans notre pays en 2002, elle avait dit qu'un dispositif solide était mis en place par les Nations Unies pour décourager l'embrigadement des enfants dans les milices. Mais selon le journal allemand Der Spiegel, il semble que cet embrigadement s'est intensifié ces derniers jours. Peut-on dire que le verrou a sauté?
Bon, d'abord, Olara Otunu, c'est monsieur, c'est pas madame. C'est monsieur Olara Otunu. Ensuite, oui, le verrou dont a parlé monsieur Olara Otunu en son temps, ce sont cette série de d'actes d'engagement, d'accords signés avec les groupes armés. Parce que c'est à la suite de discussions que ces accords ont été signés. Encore une fois, beaucoup n'ont pas joué leur partition, beaucoup n'ont pas respecté leur signature, beaucoup n'ont pas respecté leur parole. À partir de là, vous voyez le résultat, c'est-à-dire l'embrigadement continue jusqu'à ce jour. Juste à côté.
Oui, moi c'est M. Alain Waikani pour la RTNC. Je pose la question au colonel. En 2003, lorsque la force Artemis a été envoyée en Ituri, on n'a pas attendu que l'ensemble de ces militaires arrivent en Ituri pour entrer en action. Je voudrais comprendre un peu ce qui se passe au Kivu. Il y a presque un bataillon tanzanien. Est-ce qu'on attend l'arrivée de la totalité des militaires pour entrer en action? Il faut encore construire des têtes. Ou bien, comme l'urgence se pose, il faudrait entrer en action comme ça s'est fait en Ituri en 2003. Parce qu'il y avait, je ne vois pas trop la différence entre ce qui s'est posé en Ituri à l'époque et ce qui se passe aujourd'hui dans le Nord Kivu. Merci.
Si mon commandant, s'il vous permet, je peux répondre à cette question parce que j'étais là. Ce n'est pas tout à fait vrai ce que vous avez dit. Il y a quand même un seuil critique à partir desquels les militaires pensent qu'ils peuvent être opérationnels. Les Français se sont déployés en Ituri dans le cadre de l'Artemis, ce n'est pas le premier jour qu'ils ont commencé à tirer. Il a fallu un certain temps pour leur permettre d'atteindre, je dirais, ce seuil critique où ils pensaient être opérationnels avant de commencer. Donc, ce n'est pas tout à fait vrai ce que vous avez dit. Nous prenons une dernière question sur la droite.
Oui, c'est M. Samuel, du journal Explorateur. Hormis les soldats tanzaniens qui sont arrivés sur Goma, jusque-là, nous pouvons savoir, sur les 3000, combien de soldats qui sont arrivés pour la brigade d'intervention.
Un certain nombre.
Nous passons sur la gauche. Nous allons au fond. Tout à fait. Nous commençons par le fond. Oui, debout.
C'est Espérant Daniel Kamboulou de Digital Congo. Je voudrais parler plus de la situation humanitaire, ce qui se passe au Kassai Occidental à Kamako. Il y a de cela plus de 2 semaines que l'on parle de cet afflux des refoulés qui sont même gérés par une structure locale. À ce que je sache, les informations sur terrain disent qu'il y a une structure qui a été mise sur pied, CARA, Comité d'accueil aux refoulés d'Angola. Et cette structure-là est en parfaite collaboration ou en travail en collaboration avec le HCR. Est-ce que c'est aujourd'hui que la délégation doit partir de Kananga pour évaluer ses besoins, quand on sait que ces besoins-là ont déjà présenté au HCR? Est-ce que ce n'est pas à cette étape qu'il fallait intervenir, que d'attendre que ces familles qui dorment, qui passent nuit à la belle étoile, les enfants amers même de maladies qui ne sont pas soignés? Est-ce qu'à cette heure ici, c'est l'intervention qui nécessitait ou c'est l'évaluation encore des besoins?
Avant de passer la parole à l'humanitaire, juste pour vous, ne pensez pas que le commandant a refusé de répondre à votre question, qui est une bonne question. Mais j'espère que vous comprenez aussi que nous sommes là dans une opération militaire et que nous parlons d'opération militaire. Donc la réponse du commandant, c'est juste pour vous dire que nous sommes dans une opération militaire et toute information n'est pas bonne à donner en public. Ce n'est pas qu'il a refusé de répondre à votre question, il a répondu à votre question. Humanitaire, s'il vous plaît.
Par rapport à ce à quoi vous faites allusion, par rapport à CARA qui travaille avec un certain nombre de partenaires qui sont sur le terrain. Il y a aussi d'autres ONG qui sont sur le terrain. Et ces gens travaillaient par rapport à la situation des expulsés. Et par rapport à Kamako, Kassai Occidental, à ce jour, le nombre d'expulsés, c'est un peu plus de 11 000. Et toutes ces structures, même à partir de la fin d'avril, il y a une situation nouvelle. Et cette situation nouvelle va nécessiter la mobilisation d'un peu plus de moyens. Et c'est par rapport à cette situation nouvelle, par rapport à l'ultimatum qui a été lancé, que la mobilisation actuelle est en train de se faire. Parce que par rapport à CARA, HCR et CHISP, les ONG qui sont sur place, ces gens-là ont déjà apporté des réponses aux personnes qui avaient été expulsées. Maintenant, nous avons des personnes retournées et nous risquons d'avoir dans les prochains jours, à partir de demain ou dans les tout prochains jours, des personnes qui risquent d'être expulsées. Et c'est par rapport à cette nouvelle vague qu'on est en train de se préparer pour faire face.
Merci. Nous avons une dame qui essaie depuis longtemps d'avoir la parole ici, là. Donnez-lui le micro, s'il vous plaît.
Merci, c'est Mathieu Moussaou pour le compte du journal Forum des As. C'est une question humanitaire. Nous avons appris que OCHA se désengage de l'Équateur et nous voulons savoir pourquoi, pendant qu'il y a un nombre important de réfugiés centrafricains qui affluent vers le village des Dongo et de l'autre côté. Merci.
Effectivement, OCHA va fermer dans les tout prochains jours son bureau au niveau de Mbandaka. Mais le fait que OCHA part de la province de l'Équateur, il ne part pas avec tous les acteurs humanitaires
qui sont sur place parce qu'il y a d'autres acteurs qui restent.
Les affrontements entre FRDC et les Maïmaï débitent à 5 heures heure locale, selon des sources sécuritaires. Un groupe de Maïmaï infiltré à Beni depuis une semaine attaque plusieurs positions des FRDC. Un autre groupe de ces miliciens s'attaque au cas FRDC de Losaka en plein centre de Beni. C'est l'état-major du premier secteur des FRDC basé à Beni. Selon ces mêmes sources, des violents combats à l'armée lourde et légère opposent pendant une heure les assaillants et les militaires loyalistes. Ces informations sont confirmées par les commandants intérimaires du premier secteur des FRDC. Le colonel Richard Bissamaza parle d'une tentative des Maïmaï de libérer 10 délaires détenus par les FRDC et accéder au magasin d'armement de l'armée. Selon la même source, ces miliciens sont repoussés. Ils se dirigent vers Païda et Kalaou. Ce sont des quartiers périphériques situés au sud-est de Beni. Pour l'instant, les habitants sont terrés chez eux. Les commandants intérimaires du premier secteur des FRDC la situation est sous contrôle de l'armée. Béni, Martial Papimoukeba, Radio Mungano pour Radio Okapi.
Est-ce que n'était-il pas rassuré par le rapport de Mme Robinson ou encore quelle est la particularité de sa visite comparativement à celle de Mme Robinson? Le deuxième aspect de la question est celui de savoir pourquoi son choix est-il porté sur le président de la Banque mondiale pour l'accompagner et surtout au moment où le président de la République vient dénommer par ordonnance le nouveau gouverneur de la Banque centrale. Merci.
La visite de M. Ban Ki-moon est prévue de longue date. Donc ça n'a pas été décidé à la dernière minute. Par conséquent, il ne faut pas voir le rapport entre la visite de M. Ban Ki-moon et la nomination d'un nouveau gouverneur de la Banque centrale en RDC. Pourquoi il vient avec directeur, le président de la Banque mondiale? Je pense que, comme je vous l'ai dit, on ne peut pas demander une plus grande manifestation démonstration de l'intérêt de la communauté internationale face à la République démocratique du Congo. Donc la venue ici de M. Ban Ki-moon accompagné du président de la Banque mondiale devra s'inscrire dans ce sens-là et attendons qu'il vienne. Je ne suis pas le porte-parole de M. Ban Ki-moon, je ne suis pas le porte-parole du président de la Banque mondiale. Attendons qu'il vienne et le message qu'ils ont, je crois qu'ils vont livrer ça eux-mêmes. Merci beaucoup d'avoir fait le déplacement. Mercredi prochain, c'est l'arrivée de M. Ban Ki-moon. Il n'y aura pas de conférence de presse parce que je pense que vous serez tous intéressés à savoir ce qui se passe. Nous nous retrouverons donc dans 2 semaines. Merci beaucoup. Merci à Goma. Merci à nos auditeurs qui nous ont suivis en direct ou sur Internet.